Ils n'eurent pas d'autre religion que la passion de la vérité, si tant est que la vérité est beaucoup plus qu'une doctrine, un mode d'être. Pierre-Charles, l'aïeul, vrai chrétien dans son refus du pharisaïsme des églises, Francis, journaliste véridique dans sa dénonciation de cette presse d'opinion qui chaque matin sort de sa hotte préjugés et idées reçues pour habiller l'événement et le rendre plausible dans une condamnation sans équivoque envers les idéologues de marchands de sommeil. Albéric, musicien vrai dans son culte de la musique pure. Francis refuse l'Académie française et vous, professeur Magnard, vous déclinez le Panthéon à Albéric. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille Magnard, Pierre ? Éclairez-nous.
Une famille de rebelles qui veut conserver sa liberté. Or, on n'est pas un rebelle de service. Certes, j'ai remercié la Haute Assemblée quand elle me fit part de son vœu de transférer les cendres de l'oncle Albéric au Panthéon. Mais je leur ai dit aussi qu'ils auraient pu peut-être y penser plus tôt. Tomber dans sa volonté de résister aux Allemands en 1914, défendant le précaré de son jardin dans l'Oise, il dort au cimetière de Passy, et j'entends qu'on ne l'en dérange pas. Car en effet, les grandeurs d'établissement, comme disait Pascal, les célébrations mondaines, les honneurs de la République, qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter à la grandeur impérissable du musicien ? Le monde, au fond, c'est l'alibi des médiocres, qui n'ont pas d'autres ressources pour rendre plausible une pensée débile que de revêtir l'habit vert d'un académicien. Et c'est pourquoi il faut prendre son parti de refuser tous ces hochets pour considérer que le véritable honneur, c'est celui du travail ouvrier à quelque niveau que l'on soit.
Albéric Magnard parle de musique ainsi. Pâlissons, maigrissons, vomissons, crevons, mais ne reculons jamais devant l'obstacle. Le jour où nous reculons, nous sommes foutus. Une seule lâcheté appelle 1000 autres lâchetés. Nous ne faisons alors plus que des ordures. Il ne parle pas de musique, il parle de sa vie.
Il parle de sa vie. Il parle de sa vie qui fut une suite d'épreuves. Et quand je me penche sur le destin de ceux que nous appelons dans la famille la branche cadette, les descendants non point de Pierre-Jacques, mais de son frère Pierre-Charles, les deux Magnards qui étaient simplement maîtres cordonniers, rue de la Pomme à Annonay, dans les années terribles de la Révolution française, et qui vont maintenir précisément leur indépendance envers et contre tout.
Professeur Magnard, nous allons écouter un début du premier mouvement du Quatuor d'Albéric Magnard que nous avons enregistré avec le Quatuor Bella au couvent des Jacobins de la maison Louis Jadot. Un enregistrement qui est un peu la conséquence de votre venue dans notre aventure, puisque ce n'était pas prévu d'enregistrer cette œuvre. Le montage est en cours, mais le Quatuor Bella a bien voulu accepter que nous diffusions à l'antenne un extrait. Thank you. Nous écoutions donc le début du premier mouvement du quatuor d'Albéric Magnard, interprété par le quatuor Bella. Professeur Magnard, vous écrivez dans une conférence consacrée à la musique pure d'Albéric Magnard. Albéric Magnard entend par monisme l'indistinction de la matière et de l'esprit, l'union substantielle de l'âme et du corps qui confère une expression sans limite. Comment peut-on se diriger vers une expression sans limite en visant l'inexpressivité, en visant le silence et en renonçant au charme? Expliquez-nous ce mystère.
L'oncle Albéric, dans l'une de ses lettres, dit que le travail du musicien n'est pas différent du travail de l'artisan. Et il évoque le cordonnier à qui on a demandé une chaussure pour une reine. Et il dit qu'il est ce cordonnier, allusion précisément à ses ancêtres maîtres cordonniers à Annonay. Hommage aussi à cette ascendance. Pourquoi ce souci? Parce que, dirais-je, provenance dit toujours avenir. C'est dans l'héritage assumé, si modeste qu'il fût, que nous trouvons les moyens de faire face à toute éventualité. C'est Martin Heidegger, philosophe qui mérite sa notoriété, qui rendait hommage à son père, menuisier, fabricant de charpentes et de tonneaux, et à son grand-père, cordonnier, en faisant valoir que c'est cette ascendance qui constituait sa vraie, sa seule noblesse. Je le cite, « est noble ce qui possède une ascendance, et ne la possède pas seulement, mais qui séjourne à l'origine de son être, car c'est dans ce séjour à l'origine de l'être qu'il lui sera toujours possible de renaître. » Or, ayant fait la collation de toutes les références de l'oncle Albéric à la musique pure, j'ai trouvé là le secret de ce que pouvait être son exigence musicale.
Oui, parce que vous avez, lors de cette conférence sur la musique pure, il y a 2 ans maintenant, au couvent des Jacobins, vous précisiez « la musique pure est une musique absolue, une expression sans expressivité, sans le moindre égard à ce que nous pensons ou pouvons ressentir, comme si elle était immédiatement en phase avec les forces cosmiques originaires. La musique absolue est expressive par elle-même, sans avoir à représenter quoi que ce soit. Et c'est ainsi qu'elle nous situe au cœur du réel. La musique pure n'a d'autre objet qu'elle-même dans l'accomplissement de sa forme. C'est à ce titre qu'elle transcende l'apparence pour atteindre à l'essence des choses. C'est pour y prétendre qu'Albéric Magnard va oser le quatuor. »
Oser le quatuor, c'est l'expression qu'il emploie bien souvent. Car il lui semble que c'est qu'il faut de l'audace pour oser le quatuor. Alors l'expression de musique absolue, c'est celle que l'on doit au grand musicologue allemand Schlick, qui donnera en français la musique pure. Et la musique pure, c'est une musique qui va aux limites de l'expressivité. Car en effet, ce que la mode honore à cette époque, à travers Ravel et Debussy, on peut lui pardonner en raison de la grandeur de ces deux noms, mais aussi à travers Enadoan, qui suscitait l'irritation d'Albéric, qui jugeait précisément cette musique une sorte de prostitution au goût du monde.
Des chinoiseries harmoniques.
Exactement. Et c'est dans un refus précisément de cette mode qui ne cherche qu'à complaire au monde qu'il essaie d'aller aux limites d'expressivité musicale vers ce qu'il appelle les intuitions originaires. Originaires de quoi ? Originaires de la musique, mais aussi, ose-t-il ajouter, originaires de l'être, originaires des choses, originaires de l'univers. Avec ce sentiment que cette recherche aux limites de l'expressivité doit nous faire coïncider avec ce moment inaugural de toute vie.
Professeur Magnard, nous allons écouter un extrait du deuxième mouvement du Quatuor d'Albéric Magnard.
Thank you.
Professeur Magnard, notre rencontre est due à une juxtaposition d'événements qui se sont accumulés avec le temps à travers mon label discographique. Et de façon très étonnante envers des partenaires, des personnalités qui me soutiennent, notamment Pierre-Henri Gagé dont on parlait, qui est le directeur de la maison Loggiado, mais surtout aujourd'hui Aubert de Villene, qui est le co-gérant du domaine de la Romanée-Conti. C'était l'un de vos premiers élèves. Quand j'ai enregistré la sonate d'Albéric Magnard il y a quelques années, Aubert de Villene n'avait pas réactualisé une histoire qui date de 50 ans et qui a
60.
Et qui a fait que moi, en tant que mélomane, en tant que producteur, j'ai enregistré des œuvres d'Albéric Magnard. Aubert de Villene a été votre élève. Et finalement, tout ceci nous a rapprochés. Et Aubert de Villene écrivait il y a peu de temps « Le vigneron essaye d'extirper de la vigne l'expression d'un vin pur et l'explication de l'élaboration du quatuor d'Albéric Magnard par le professeur Magnard est une leçon pour ceux qui dégustent le vin en le comparant à toutes sortes de goûts et d'odeurs. Et cela confirme à quel point c'est une erreur. Et combien il faut goûter le vin seulement pour lui-même. Quand on emploie le mot poésie, il faut faire attention. Beaucoup de poésie a été écrite sur le vin et elle est toujours mauvaise. Même Baudelaire, c'est mauvais parce que le vin est une poésie par soi-même. » Ça vous convient, ça?
Tout à fait. Le vin, c'est l'expression même du sens de la terre. Jamais la terre ne s'exprime dans son génie propre, dans la spécificité de son terroir, dans la particularité de son climat, que dans le vin. Il n'y a pas plus haute expression. Autrement dit, le vin est une figure de la musique, ou la musique une figure du vin, car l'une et l'autre traduisent précisément ce que j'appelle le génie de la terre, ce sens de la terre. L'expression est de Nietzsche, qui disait que c'était nos cinq sens qui nous enracinaient dans notre terre, constituant comme les détecteurs conjoints qui nous permettaient de découvrir l'esprit de la terre. Et que, dès lors, il nous donnait le sens de la terre, et que la perte de cette approche risquait fort de constituer une humanité abstraite, une humanité, comme osera le dire Michel Foucault, une humanité hors sol, lequel Michel Foucault plaide pour l'humanité hors sol, alors qu'elle constitue l'aberration des aberrations, puisque ce qui nous humanise, c'est la terre autant que le ciel. Et c'est parce que, précisément, dans l'habitat terrestre, nous sommes capables de conjuguer les dieux et les mortels, d'unir le ciel et la terre, que cet habitat terrestre est ce qui nous humanise. Il faut donc revivre cet enracinement en recherchant précisément ce sens de la terre.
Par rapport à la fin de vie d'Albéric Magnard, je voudrais que vous nous expliquiez à quoi correspond ce dont se targuent beaucoup de philosophes ou de personnes qui s'autoproclament philosophes. Cette notion de courage intellectuel, qu'est-ce que c'est que ce courage intellectuel? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut être courageux intellectuellement? C'est quoi être courageux intellectuellement?
Aujourd'hui, c'est l'apanage des journalistes qui se prévalent d'un courage purement imaginaire, fantasmagorique, un courage d'apparence. Autrement dit, ça fait partie, tristement, de la comédie humaine. Car le vrai courage, on ne le décrète pas, on ne le professe pas, on l'assume quand on le vit jusqu'à la mort, ce qu'a fait précisément Albéric. Je n'aime pas qu'on dise qu'Albéric est mort pour la France, car il n'est pas tombé en uniforme, les armes à la main, puisqu'il avait été écarté des officiers de réserve auxquels il appartenait à cause de son soutien à Zola dans l'affaire Dreyfus. Il en était très meurtri et il avait dit « Quoi qu'il advienne, je défendrai ma terre ». Et quand les Allemands sont arrivés à Baron-sur-Oise, un peu avant la Marne, il fut là, non pas au premier rang, mais à son balcon, à guetter l'envahisseur. Et c'est ainsi que lorsqu'un escadron de la cavalerie allemande occupa Baron et dépêcha deux de ses officiers dans la propriété d'Albéric, celui-ci fit feu et les descendit sur le sol.
Professeur Magnard, il est de bon ton dans le monde de la musique de considérer ce geste héroïque de façon un peu simplette, en disant que c'est une sorte de suicide. Alors je réponds souvent que si tous les Français avaient eu cette attitude, les guerres auraient été beaucoup plus courtes. Mais ce n'est pas un suicide.
C'est
tout l'inverse.
C'est tout l'inverse, absolument. Il aimait la vie. Il détestait le monde, mais il aimait la vie. Le monde, pour lui, c'était une parodie. C'était un spectacle de fantoche. C'était quelque chose d'inconsistant. Mais la vie, c'était la réalité même. et cette référence à la vie interdit qu'il ait pu jamais imaginer le suicide. Mais il avait dit que si l'occasion s'en présenterait, il se battrait. Et il avait fait partir sa femme et ses deux filles en Normandie quelques jours auparavant devant l'avancée des troupes allemandes. Et c'est pourquoi il fut seul avec son fils adoptif lorsque les Allemands survinrent. Qu'est-ce qu'il devait faire selon son éthique ? Faire front, même s'il était seul, contre un escadron de Uhlans. Et c'est précisément ce combat inégal qui fait sa bravoure de héros antique. On pense à Léonidas aux Thermopyles, qui seul se bat contre toute l'armée perse. On ne sait quel fut le sort de Léonidas, on sait quel fut celui d'Albéric. Il fut celui d'un sage antique, d'un héros du théâtre grec qui meurt les armes à la main.
Professeur Magnard, je vous remercie d'être intervenu une deuxième fois sur Isère Classique. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une émission basée sur le sens. Merci, à très vite.